Le début d'année 2025 a été plutôt compliqué pour Apple. La pomme a dû repousser son nouveau Siri, pourtant présenté en fanfare l'année dernière et vendu comme un atout majeur pour l'iPhone 16 Pro. L'App Store est plus que jamais sous pression à travers le monde, tandis que le retour de Donald Trump complique la gestion des chaînes de production. L'avenir n'est pas particulièrement radieux, Apple affichant un certain retard dans le domaine de l'IA ou des marchés en vogue, comme celui des lunettes connectées. La WWDC va être l'occasion pour la marque de redresser la barre. On s'attend à découvrir de nouvelles versions d'iOS, d'iPadOS et de macOS dont la numérotation pourrait changer et qui devraient tous avoir droit à un gros ravalement de façade. Que nous réserve la WWDC 2025, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Christophe, grand patron de MacG, qui n'en est pas à sa première WWDC. Salut Christophe.
Salut Félix, bonjour à tous.
Et je suis également avec Florian, rédacteur en chef de MacGénération, qui a passé pas mal de temps à décortiquer toutes les rumeurs. Salut Florian.
Bonjour.
Alors la WWDC 2025, elle a jamais été aussi proche. Là on enregistre, on est le 3 juin, ça sera le 9. Vous êtes impatient de voir ça? Qu'est-ce que vous attendez principalement cette année, Christophe?
Oh bah c'est un petit peu Noël en été quand même la WWDC. Hein. C'est toujours difficile de dire ce qu'on pense, parce que voilà, ça enregistre et dans une semaine la réalité sera peut-être tout à fait différente. Mais mine de rien, oui, c'est une WWDC, je pense, très importante pour Apple déjà. Mais ça arrive souvent qu'à l'approche des WWDC, il y ait beaucoup de doutes autour d'Apple. Mmh. Mais si on regarde le bilan des précédentes WWDC, c'est pas forcément hyper glorieux. Ouais. Parce qu'en 2023, on a eu de Vision Pro. Alors bon, sur le coup, c'était sympa, mais malheureusement, ça a quand même été un échec assez cinglant. En 2024, c'est la présentation d'Apple Intelligence. Et là, bah, on peut pas dire que les débuts d'Apple Intelligence aient bouleversé l'humanité. Mmh. Voilà, si j'étais un peu mauvaise langue, je dirais qu'on est quand même à deux flops d'affilée. Voilà, pour la première, Apple s'est trompé de cible avec le Vision Pro. La seconde, elle donne l'impression d'être larguée. Donc là, ça serait quand même bien, effectivement, comme tu disais, qu'elle arrive à redresser la barre. Et donc, j'ai l'impression, un double enjeu. C'est tout d'abord, c'est d'exprimer une vision. Et ça semble passer par sa nouvelle interface. C'est quand même un petit peu le dada d'Apple, et ça faisait un petit moment qu'elle avait touché à rien. Et puis, voilà, le deuxième enjeu, c'est de rassurer, et là, de dire, bah, vous inquiétez pas pour l'intelligence artificielle, on y arrive petit à petit. L'année dernière, c'était vraiment la présentation des choses, on a mis les bases, et maintenant, vous allez voir, il y a de l'intelligence artificielle partout. Donc oui, bah, c'est une WWDC qui est attendue, même si cette histoire, moi, de nouvelle interface, je dois reconnaître que je suis un peu méfiant. Enfin, la question que je me pose, c'est, pourquoi une nouvelle interface en 2025? Ça me fait un peu peur, cette histoire. J'ai un peu l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, et puis en plus, en tant qu'utilisateur, il y a quand même deux, trois trucs qui m'inquiètent un petit peu. Alors, tout d'abord, ces interfaces, moi, j'ai peur qu'elles soient plus lourdes sur nos appareils, que cela pousse au renouvellement. On a déjà vu le phénomène par le passé. D'autre part, il y a quand même quelque chose qu'on a souvent constaté, c'est qui dit nouvelle interface dit pas grand-chose d'autre. Voilà, parce que voilà, on peut pas être au four et au moulin en même temps. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'Apple a sorti un nouveau produit, elle a eu tendance à faire profiter ses autres produits de ses avancées. Hein. Donc voilà, Apple a investi quand même des dizaines de milliards, enfin au moins 10 milliards dans le Vision Pro, donc bah, autant les amortir autant que possible. Et puis elle travaille également sur SwiftUI depuis des années, donc voilà, il y a un puzzle qui se met en place. Mais une fois qu'on a dit tout ça, pour moi le seul argument valable qui plaide pour la création d'une nouvelle interface, c'est de rapprocher de plus en plus ces différents produits. Commercialement, c'est intéressant parce que voilà, quand un utilisateur achète pour la première fois un produit Apple, et bah, il se dit oh, bah, j'ai acheté un iPhone, je peux passer sous Mac sans problème et vice versa. Mais surtout, alors ça, on est dans la zone des rumeurs, mais on a quand même l'impression qu'on va avoir de plus en plus dans les années à venir des produits hybrides. On parle depuis quelque temps déjà de l'iPhone pliable. Alors l'iPhone pliable, c'est quoi le système d'exploitation? C'est iOS ou c'est iPadOS, du fait que lorsqu'il est déplié, il est aussi grand qu'un iPad? On entend également des rumeurs disant qu'Apple travaille sur des tablettes pliables qui, dépliées, offriraient une surface de travail supérieure à celle d'un MacBook. Et là, vous mettez quoi comme OS dessus? Vous mettez iPadOS, macOS? Donc je pense que c'est là où cette histoire de nouvelle interface peut avoir un rôle déterminant à jouer.
Et toi, Florian, t'es chaud patate pour bosser un lundi férié?
Mais ça, c'est des vrais sujets, et c'est la question que je ne pose pas à Florian, c'est cela fait quoi d'avoir chaque année son anniversaire pour la WWDC?
Alors là, c'est le lendemain, ça tombe le mardi. Ils m'ont fait des sales coups des fois, mais c'est vrai que là, ça commence à être pénible. Mais non, mais cette année, c'est vrai que c'est toujours, comme disait Christophe, c'est un peu Noël en plein été, parce que c'est on présente tous nos nouveaux systèmes et puis il commence à en avoir un paquet, donc il y a souvent beaucoup de choses à montrer. Cette année, avec presque ce qu'a décrit Christophe et ce qui s'est passé, on s'attend peut-être à... Je les imagine pas faire des preuves de contrition et dire on s'excuse, etc. Mais peut-être qu'ils vont avoir un discours beaucoup plus concret avec des choses qui seront... Google l'a fait un petit peu quand ils ont fait leur petite vidéo de présentation d'Android 16. On sentait des petites piques à l'endroit d'Apple où ils disaient, en parlant de leur IA, ils disaient alors ça c'est disponible maintenant, ça c'est maintenant, ça vous n'avez pas à attendre, ça c'est maintenant. Bon, Apple va peut-être montrer des choses en disant voilà, ça c'est prêt, ça c'est fait, des choses qui sont vraiment concrètement prêtes, entre guillemets, toujours un peu en bêta parce que c'est le jeu, mais pas des choses dont ils vont se dire oula, ça on va le montrer, mais ça risque d'être prêt dans un an. Il y a toujours des fonctions qui arrivent un peu plus tard, elles sont toujours montrées en juin et puis elles arrivent en 90% arrivent en septembre et puis le reste est un petit peu essaimé. Peut-être que là ça sera peut-être un peu plus resserré. Ils le diront pas forcément, mais voilà, ils montreront peut-être des choses qui sont proches de la version assez assez finale et aboutie. Et puis des choses assez concrètes, c'était très rigolo, Image Playground, vous pouvez faire vos propres emojis, vous demander à faire un castor qui est sur une planche de surf en train de manger un gâteau. Ouais, c'est rigolo, sauf que ça tombait un petit peu à plat parce que c'était déjà quelque chose qu'on pouvait faire avec les autres IA. Et il y a des fois on se dit mais moi je très, très franchement, il me ferait un bon bloqueur d'appels indésirables et un filtre anti-spam qui marche dans Mail. Déjà, je serais assez content. À mon modeste niveau, si ces deux trucs pouvaient fonctionner, ça serait déjà pas mal.
Mais avec l'intelligence artificielle, il y a matière à faire en plus.
Oui, hein. Et puis ne serait-ce qu'en utilisant ce que font les... Parce qu'ils ont des apps sur l'App Store qui fonctionnent très bien. En utilisant... Alors là, ça dépend de chaque pays, mais en France, il y a des listes très officielles de numéros à bloquer, etc. Les listes sur lesquelles s'appuient ces développeurs, des fois des développeurs amateurs, et qui font un très bon boulot. Il suffit de regarder son journal d'appel et de se rendre compte que tout ce qui était bloqué. Donc il y a des ressources qui existent. Alors peut-être qu'Apple veut toujours des solutions très globales qui soient pas trop dépendantes d'un pays ou autre, mais donc voilà, mais vraiment des fonctions beaucoup plus très concrètes et vraiment exploitables quand les OS sortent. Et par rapport à ce que disait Christophe sur les interfaces, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend toujours parce que Apple a cette culture de l'interface. C'est la chose que l'on a constamment sous les yeux quand on utilise son Mac, son iPhone, c'est l'interaction, c'est le visage de ces produits, c'est les interactions qu'on a avec ces produits. Et la dernière grande... Il y a eu deux refontes en parlant d'iOS, qui est un peu leur système quand même principal maintenant. Il y a eu la première interface des premiers iPhones qui était très réaliste. Johnny Ive a repris les commandes de ce développement après, je crois que c'était iOS 7, j'arrive jamais à me rappeler le numéro, où il a tout remis à plat au sens propre du terme. Et puis on est resté sur cette historique d'une interface très où il y a des boutons qui n'étaient plus des boutons, mais c'était du texte, des lignes de texte appuyées. C'était un peu compliqué au début, mais ils ont amélioré petit à petit, mais on est resté sur cette base. Et ça ne me surprendrait pas qu'on soit juste simplement arrivé dans un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on connaît cette interface depuis longtemps. Les bonhommes qui travaillent là-dessus, ils ont de nouvelles idées. Vision OS est arrivé avec un look qui est propre à ce casque. Alors, on peut pas tout reprendre, mais ils ont pu tester des nouvelles façons de présenter les fenêtres, de nouvelles interactions et de se dire, tiens, c'est pas bête, ça pourrait aussi marcher sur un iPhone. Donc, au bout d'un moment, il y a toute cette réflexion, cette expérience et ces retours qui s'accumulent. Et je sais pas s'il y a forcément besoin de changer l'interface, mais voilà, il y a une sorte de mouvement qui se crée, une connaissance qui s'accumule, et on se dit, tiens, on pourrait exploiter tout ça, ces petites idées, mais on va pas faire des petits bouts, on remet un petit peu à plat et on repart sur des bases un peu plus fraîches. Et comme tu disais aussi, il y a des ils savent aussi les produits qui sont en développement, c'est la même équipe qui fait les interfaces et qui travaille sur ces produits. Et les interfaces d'aujourd'hui préparent aussi les produits qui vont sortir dans un an, deux ans, trois ans. Donc il y a tout un ensemble de choses qui convergent à un moment ou à un autre et qui font que les interfaces évoluent, pas juste pour la beauté du geste, mais parce que voilà, c'est le moment est arrivé.
J'ai une question un petit peu terre à terre, mais l'un des gros changements dont on va tout de suite se rendre compte, ça pourrait être la numérotation des systèmes d'exploitation. Alors, oui, vous en pensez quoi de passer de iOS... Moi, je suis perdu avec les numéros de version actuelle. En plus, macOS, c'est 15, iOS, enfin, voilà. C'est, oui, ça me demande toujours un effort. Mmh. Ça vous enchante de passer à iOS 25 ou 26 et macOS 26, ou comment vous voyez ça?
Bah, franchement, en tant que rédacteur, il y a des moments où ça m'est déjà arrivé de retourner dans les fenêtres à propos, machin, pour dire, mais attends, on est dans quelle version? Parce que entre la version officielle, la version bêta qu'on a souvent, déjà on se mélange un peu les pinceaux, et puis les macOS 15 points, etc., etc. Donc, ouais, à la limite, là, au moins, on sait toujours dans quelle année on est, on sait toujours quelle année, le numéro de l'année suivante, ça, on le sait tous, et ça permettra un peu de s'y retrouver. Pour le grand public, je sais pas si ça apporte quelque chose. Il y a des gens, je pense, que ce soit macOS 26 ou macOS 17, je suis pas sûr que ça leur change la vie, mais peut-être au niveau de la communication, c'est peut-être un peu plus simple, même pour eux, à la limite.
Peut-être qu'il y a aussi une... Parce que sur macOS, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on parle toujours... On dit jamais macOS 15, en fait. On parle souvent de macOS Sequoia, Sonoma, genre de choses. Est-ce que c'est pas une manière aussi, peut-être, d'abandonner un petit peu ces appellations et de revenir plus à une numérotation? Enfin, j'en sais rien, mais ça peut être comme ça aussi.
Ils ont fait un peu le tour des lieux en Californie, ils se disent, bon... Parce que... Après, ça va être quoi? Ça va être San Francisco ou autre? Non, c'est bon. Oui, peut-être c'est... Mais le côté, on fait quelque chose de plus simple pour tout le monde, ça peut se défendre, à moins qu'il y ait une raison beaucoup plus
complexe derrière. Ça va simplifier le boulot les soirs de bêta, parce que tu n'auras plus besoin d'aller vérifier. C'est WatchOS... enfin, non, VisionOS 2, WatchOS 11, ouais. Tout ça. Là, ça
et
sera
puis
juste,
voilà, les systèmes, VisionOS est arrivé après tout le monde, donc il n'a pas, la même ancienneté au niveau des numéros. Ouais. Donc voilà.
Après, moi, c'est le choix de choisir l'année d'après qui me perturbe un peu. Parce que iOS 26 qui sort en 2025, c'est un truc. Mais d'un autre côté, le sortir iOS 25 qui aurait vécu la moitié de sa vie.
Oui, bah après, voilà, ça fait une autre petite explication à donner aux gens qui s'intéressent vraiment à ça. Mmh. Après, ça peut être aussi que le grand mouvement de mise à jour se fait un peu dans les mois qui suivent, et puis les gens qui. Ouais. C'est déjà, il y a aussi, on a parmi nos lecteurs qui sautent pas du tout sur la première version, attendent un petit peu les points 2, points 3 pour avant de s'y mettre, histoire que ça soit un peu dégrossi au niveau des bugs. Mmh. Donc là, pour le coup, ils installeront la mise à jour de l'année dans laquelle on est.
iOS, ça va être la star de la WWDC. On s'attend à une grosse révision, du coup, au niveau de l'interface. Florent, qu'est-ce qu'Apple nous réserve comme nouveauté?
Alors, je vais aller très très vite, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été déjà données au niveau des rumeurs. Donc, il y avait les nouvelles interfaces un peu plus fraîches, et puis une sorte de cohérence un peu entre toutes les plateformes. Ça sera intéressant de voir jusqu'à quel point il y a vraiment une nouvelle interface, si c'est des aménagements ou si c'est un vrai franc et nouveau look. Mmh. La numérotation, on a parlé. Il y aurait une app orientée jeu. Alors, on imagine un peu dans l'app App Store, l'onglet jeu soit extrait de là et devienne une app à part entière et qui réunit tout ce qui concerne le jeu. Ça fera la bonne action d'Apple à l'égard du jeu, comme ils le font tous les ans. Une nouvelle application de calendrier, ça c'était d'une certaine manière confirmé par Apple elle-même, puisqu'elle doit déclarer auprès de la Commission européenne, une fois par an je crois, les sociétés qu'elle achète, et donc c'est quelque chose qui est tout à fait public, on était tombé dessus il y a quelques jours, et parmi les achats, donc certains avaient déjà été rendus publics. Et puis il y avait une boîte canadienne qui faisait un logiciel de calendrier. Au début, pas du tout pour Apple. Ça fonctionnait uniquement avec les calendriers de Microsoft et de Google. Et avec l'idée de le faire un peu plus tard dans une prochaine version pour iCal, pour calendrier d'Apple plutôt. Et là, cette boîte, Apple a déclaré, a dit oui, on a acheté cette boîte et certaines des personnes travaillent pour eux. Donc il y a encore le site d'ailleurs, ça s'appelle Mayday, quand on appelle au secours. Et on voit que c'est une application de calendrier avec des fonctions un peu intelligentes. Lorsqu'on veut faire une réunion avec plusieurs personnes, on la pose et puis il essaie de voir le meilleur moment où tout le monde est disponible. Ou quand on déplace, il essaie de réajuster tout ça. Donc un calendrier un peu plus malin que celui qu'on a. Je vais aller un peu plus vite. Dans la iPadOS, il y a une nouvelle gestion des fenêtres qui ressemblerait un petit peu à ce que l'on a sur Mac, où on peut superposer des fenêtres, il y a plus de liberté dans les mouvements. Il y aurait un Stage Manager sur iPhone, donc pour ceux qui l'utilisent, c'est une manière de réorganiser un petit peu son espace. Mais est-ce que c'est que sur l'iPhone, l'écran n'est pas très gros? Ou est-ce que c'est lorsqu'on branche l'iPhone sur un écran, comme le fait Samsung? Ça, c'est la question. Il y aurait les styles photographiques qu'on connaît déjà sur iPhone qui arriveraient pour les vidéos. Les styles photographiques que les développeurs d'apps pourraient utiliser. Ces styles qu'a créé Apple, les développeurs d'apps pourraient les utiliser. Le RCS qui s'améliorerait, toujours cette communication entre Android et iPhone au niveau des SMS. Donc, il y a des nouvelles fonctions pour avoir un peu plus de possibilités et rapprocher tout ça des possibilités qu'offrent les messageries privées. Mais ça, c'est des normes qui évoluent, donc Apple, au bout d'un moment, est obligé de se raccrocher, de suivre la norme. Rapidement encore, traduction peut-être automatique via les AirPods, on imagine les AirPods Pro plutôt. Les modèles d'intelligence artificielle d'Apple qu'elle développe, donc concurrents de ceux d'OpenAI ou d'Anthropic, etc., qu'Apple mettra à disposition des développeurs, ça peut être intéressant pour eux si c'est gratuit. Parce que normalement, quand on veut l'utiliser à une grande échelle, il faut quand même payer. Donc là, si c'est gratuit, ça peut être intéressant pour eux, sous réserve que ces modèles d'Apple soient performants par rapport à la concurrence. Une nouvelle app santé qui soit un peu plus utile, parce que l'app santé actuellement, elle est plutôt riche dans son contenu, c'est-à-dire qu'elle engrange énormément de choses, avec des rubriques, on peut voir comment évolue telle ou telle chose, mais c'est assez léger sur le côté... pour prendre le mot anglais, coaching, pour vous dire un peu, voilà, tiens, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Il y a pas mal d'apps sur l'App Store qui font ça depuis un moment, qui vous encouragent un petit peu, voilà, c'est des incitations. Ça, elle le fait pas trop, il y a de quoi faire. Et puis après, il y a des petites fonctions qui pourraient dépendre de l'Europe qui demande à Apple d'ouvrir telle fonction. C'est pas sûr que la WWDC soit l'endroit où ça sera expliqué. C'est plutôt des choses qu'on découvre après, qui sont expliquées. Voilà, Apple va pas arriver sur scène en disant « Donc, grâce à l'Europe, vous allez pouvoir faire ceci, cela ». C'est pas trop l'état d'esprit. On a vu beaucoup de fonctions d'accessibilité qui ont été déjà présentées avant. Et il y a une autre chose qui est très importante, donc ça c'est ce qui est sorti dans les rumeurs, donc il y aura peut-être encore pas mal de choses évidemment. Ce qui est intéressant chaque année, c'est de savoir quels sont les appareils iPhone et Mac qui vont continuer de pouvoir installer ces futurs systèmes. Donc là, il y aurait un petit peu d'écrémage. Donc ce qui avait été dit, le système d'exploitation du Mac, c'était celui-ci qui était assez intéressant. Donc son nom de code, ça serait Joie. Donc c'est un bon programme. Il prendrait en charge les machines suivantes, tous les MacBook Pro depuis le modèle 2019. Donc le mien, il saute. Tous les iMac depuis le modèle 2020. Donc le mien à la maison, il saute aussi. Tous les iMac, bon.
C'est pour ça que la WC tombe la semaine de ton anniversaire. C'est pour te lui offrir des cadeaux, je pense que c'est évident.
Oui. J'ai bien acheté du produit Apple l'année dernière pour la famille. Donc là, j'ai fait ma bonne action. Donc cette année, on va faire avec ça. Et puis, donc l'iMac Pro, évidemment, qui sauterait. Et puis, ensuite, on a dit les iMac depuis le modèle 2020.
Ouais. Mac Mini aussi, non ?
Alors Mac Mini, ça serait le Mac Mini à main. Et puis le Mac Studio, c'est évident, puisqu'il n'a jamais été sur Intel.
Ouais, bah, c'est plus grand-chose, en fait, en Intel, du coup.
Voilà. Et le Mac Pro, depuis le modèle 2019, donc c'est la dernière génération, enfin l'avant-dernière génération en date, c'est un modèle encore Intel. Donc il y aurait quand même un petit peu de gens qui diraient au revoir à macOS... Lactao, si c'est le nom qui est retenu. Donc voilà, il y aurait des machines qui seraient maintenant pour cette année en fin de course. Mais ce serait pas un truc que j'attendais déjà même l'année dernière, c'était qu'Apple dise voilà, on a bien avancé sur les machines Apple Silicon. On vous donne maintenant un calendrier de fin de vie pour macOS sur Intel. Ça s'est pas fait l'année dernière. Peut-être que là, il y aura un peu plus d'explications, disons aux développeurs. À partir de l'année prochaine, le prochain macOS ne sera plus sur Intel, donc vous pouvez commencer à laisser tomber ces machines petit à petit.
Ils avaient fait ça pour le passage PowerPC à Intel ?
Disons que là, c'était un petit peu autre chose parce qu'il y avait un côté, on change carrément de plateforme, on vous annonce, parce que c'était gardé secret un petit peu jusqu'à la fin, on vous annonce que l'on abandonne l'architecture PowerPC et qu'on va sur Intel. Donc il y avait, alors je ne sais plus s'ils avaient donné... Si, ils avaient donné un calendrier.
Ouais. C'était Snow Leopard qui avait joué... Peut-être le dernier à faire fonctionner les Power PC, non ?
Ouais, puis il y avait un calendrier. Enfin, le calendrier d'arrivée des machines Intel avait été donné, puis ils étaient parvenus à les faire sortir un peu plus tôt. Je me souviens plus s'ils avaient dit à partir de temps on arrête sur Power PC, mais c'est probable, parce qu'à un moment, il faut bien que les développeurs sachent s'ils doivent compiler pour deux plateformes ou s'en tenir une seule.
Ouais. Christophe, on attend aussi de grosses nouveautés pour macOS, iPadOS, tout ça ?
Non, mais il faut arrêter de se mentir. Non, mais Félix, quand est-ce que macOS a accueilli une grande nouveauté ces dernières années à l'occasion de la WDC ? Bon, la grande rumeur, enfin, on vient de juste en parler, mais la grande nouvelle, ça pourrait être la fin de la prise en charge des Mac Intel.
Ouais.
Même si, a priori, ça va être un peu plus compliqué que ça et qu'il y aura encore quelques machines qui seront supportées. Et d'ailleurs, je serais assez intéressé de voir... quelles nouveautés pourront-elles utiliser vraiment ? Parce que là aussi, il y a une différence entre faire tourner le dernier OS et pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l'OS en question.
Ouais.
Mais voilà, en tout cas, les années précédentes, les nouveautés qui avaient été présentées, c'était des fonctionnalités pour iOS, mais ça ne rentrait pas dans la présentation où il fallait montrer que Apple n'avait pas totalement oublié le Mac. Donc voilà, Apple te montre une fonctionnalité, t'as l'impression que c'est une fonctionnalité pour Mac, mais dans les faits, hein, ça de la bêta, tu vois, bah oui, bah, elle est également sur iPhone, cette fonctionnalité. Alors je te prends un exemple, hein. On sait qu'Apple travaille sur une technologie pour se connecter plus rapidement au hotspot Wi-Fi. Elle va peut-être présenter cela comme une nouveauté pour le Mac, mais c'est quelque chose qui sera pensé également aussi pour iOS ou pour iPadOS. Ouais. Donc voilà, je pense que la grosse nouveauté pour macOS, enfin il y en a quand même deux ou trois, ça va être forcément la nouvelle interface, les nouveaux icônes, nouvelles fenêtres et tout ça. Voilà, je pense également que l'autre grosse nouveauté, mais ça ne concernera évidemment pas que le Mac, c'est que je pense que Apple va faire infuser Apple Intelligence dans toutes ses applications. Alors, j'espère qu'elle aura de bonnes idées, notamment pour Safari, parce que je trouve que depuis quelques années, Apple n'est pas très inspiré concernant son navigateur web, et pourtant on voit les autres navigateurs, il y a quand même des choses qui sont relativement intéressantes. Il y a aussi, on a appris récemment, alors là aussi c'est plus pour iOS que pour macOS, mais bon, ça marche sur les deux plateformes, que raccourci, Apple travaillerait sur une version de raccourci qui carbure à l'intelligence artificielle. Alors ça, je pense que ça va, si ça marche bien, potentiellement, ça peut quand même changer la vie des utilisateurs, et ça peut permettre à cette technologie, enfin voilà, parce que le script ou les raccourcis, j'ai eu l'impression que c'était quand même réservé à des utilisateurs un petit peu expérimentés. Là, si à partir d'un prompt, t'arrives à voir à peu près ce que tu veux, je pense que ça peut vraiment être une petite révolution, et ça peut montrer à quoi, en tout cas. L'intelligence artificielle générative peut servir. Il y a un autre point également que Florian n'a pas évoqué, mais qu'on va concerner sans doute les deux plateformes, c'est que il est plus que probable qu'on ait le choix entre ChatGPT et alors je sais jamais comment le prononcer, Gemini ou Gemini, enfin voilà, lorsque Apple Intelligence n'arrive pas à répondre à vos besoins, alors il va se connecter donc soit au service d'OpenAI, soit au service de Google. Alors ça pourrait être très intéressant, enfin ça dépend d'où on se place, mais Google, connaissant énormément beaucoup de choses sur vous, surtout si vous l'utilisez, notamment avec Gmail et compagnie, ça pourrait rendre cette intégration, en tout cas, très pertinente. Mais voilà, mais il ne faut pas évidemment être allergique à Google, mais ça, c'est un autre débat, j'ai envie de dire. Et puis pour iPadOS, on l'avait également évoqué déjà, donc la grosse nouveauté, ça serait cette barre de menu, ces fenêtres qui se superposent. Bref, un iPad qui ressemblerait de plus en plus à un Mac. Et donc, quand on parlait de nouvelles interfaces et d'appareils hybrides, je crois qu'on est en plein dedans. Il y a quand même deux choses à prendre en compte, en tout cas d'un point de vue commercial. C'est qu'on constate que l'iPhone est à un plateau depuis maintenant 3 ans. La meilleure année de l'iPhone, c'est 2022. Apple n'a pas fait mieux depuis. Et que il y a le Mac et l'iPad sont par contre en croissance régulière de 10-15%. L'iPad, ça en est même surprenant parce qu'on avait fini par ne plus y croire, et là ça va faire 2 ans que l'iPad se porte bien. Alors j'étais peut-être un petit peu sarcastique tout à l'heure, mais voilà, peut-être que ça, ces chiffres de vente encourageants vont pousser Apple à mettre un peu plus le paquet sur ces deux appareils qui ont quand même toujours été mis un peu de côté par rapport à l'iPhone. Peut-être que ça va permettre de rééquilibrer les choses. Ce sera en tout cas quelque chose à observer de près lundi.
Ouais. Et pour la montre, il y a des trucs que t'attends? On n'a pas beaucoup de rumeurs, mais...
La montre. Alors, on parlait justement de chiffres de vente. Y a un problème de manière générale autour de l'Apple Watch et même des AirPods. Hein. Apple n'est plus numéro 1 sur le marché des montres connectées. Le chiffre d'affaires de la division... C'est une division un peu fourre-tout, hein, chez Apple, mais qui comprend les AirPods, les HomePods et les Apple Watch, est en baisse constante depuis, de mémoire, je dirais 2 ans. Donc, il y a sans doute quelque chose à changer. Surtout que moi, je pense que peut-être le plus gros défaut de l'Apple Watch, c'est le côté logiciel. Alors, il y a moyen, à mon avis, de faire plus, que ce soit en termes d'informations affichées que de sophistication de ces applications. Il y en a beaucoup qui restent très très simples. Voilà, par exemple, c'est ce que disait Florian avec Santé. On a une application Santé qui est étonnamment complexe sur iOS. Et lorsque tu vas avoir des informations, entre guillemets, de base sur ton Apple Watch, alors là, mais c'est d'un minimalisme fou. Et donc, je pense qu'il y a sans doute un curseur qu'on peut peut-être un petit peu ajuster. La grosse nouveauté, ça pourrait être justement le coach Santé dont on en parlait depuis des années. Mais c'est tout, j'ai envie de dire, c'est tout le drame de l'intelligence artificielle. Apple va arriver encore bon dernier ou presque sur ce segment. Alors, d'après les rumeurs, ce coach santé n'arriverait pas avant l'année prochaine. Mais Apple a tout en main pour faire quelque chose, je pense, de très très intéressant. Il y a une autre rumeur que j'aimerais bien avoir sur l'Apple Watch, même si, a priori, elle est quand même plus pensée pour les iPhones. Voilà, il est question d'utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter l'autonomie. Alors, des iPhones, mais voilà, si ça pouvait servir pour l'Apple Watch, parce que tout ce qui peut permettre d'augmenter l'autonomie sur un Apple Watch, je pense que c'est... Il faut pas s'en priver. Mais voilà, ça serait intéressant à suivre. Enfin voilà, ça serait vraiment... Enfin, moi, j'attends de voir quelle est la direction qu'Apple va nous montrer avec l'Apple Watch. Est-ce qu'on continue un petit peu côté santé-sport, ou est-ce qu'on se recentre un petit peu comme extension du téléphone, sachant que sur ce point-là, très précis, Apple est un peu embêté par l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses qui sera... Enfin, voilà, ça sera vraiment quelque chose qui sera intéressant de suivre de près.
Sur la montre, il y a les... Enfin, il y a un truc, moi, qui me manquait un petit peu, c'est... Je sais plus si ça doit faire 2 ans où ils avaient sorti les exercices personnalisés, où on pouvait se faire des séquences d'exercices pendant 2 minutes, je vais faire ci, pendant 3 minutes, je vais faire ci, etc. Mais ça, tout ça se fait depuis la montre, ce qui est pas commode du tout. Et je me disais, ils vont forcément faire une côté dans l'application Form, il y a de la place de faire un petit atelier entre guillemets pour, je sélectionne mes exercices, les durées, etc., etc. Mais de le faire depuis l'iPhone pour qu'il y ait vraiment un écran un peu plus confortable. Donc ça, c'est peut-être une fonction qui pourrait être apportée. Et il y a toujours aussi une demande qui est récurrente des utilisateurs, c'est de pouvoir installer les cadrans qu'ils veulent, de plus dépendre des cadrans d'Apple qui sont renouvelés un petit peu tous les ans. Je les imagine pas changer forcément de braquet là-dessus, mais peut-être, alors là c'est une fonction complètement hypothétique, mais utiliser l'IA pour dire, à partir des complications qu'on vous propose, des cadrans qu'on vous propose, vous dites le type de cadran que vous aimeriez avoir, et nous on vous fait un mix. Je veux un cadran plutôt sportif avec du rouge, avec des complications plutôt sur la météo, et hop, et paf, et l'IA sur l'iPhone vous crée un cadran, mais en se basant sur les éléments qu'Apple propose déjà, et ça évite de se balader dans toute la galerie de cadrans, de bouger des menus. C'est un truc qui paraît tout bête et qui pourrait peut-être donner des résultats assez sympas.
J'achète ta fonctionnalité. Voilà. On va la soumettre à Tim Cook, là. Voilà, si vous pouvez faire quelque chose pendant le week-end, de toute façon, vous l'annoncez pas avant l'année prochaine, on est plus pressé à ce niveau-là. Parce qu'autant je crois pas à un magasin des cadrans, parce que ne serait-ce que le cadran est sans doute la fonctionnalité qui tape le plus finalement sur l'autonomie de l'Apple Watch, mais autant un truc qui reste un petit peu,
Les coups d'Apple, Ça resterait dans leur... ça serait toujours des cadrans un peu Apple, parce que ça serait toujours des cadrans. Il n'y a pas quelqu'un qui mettrait le logo de Ferrari ou des choses comme ça, Ça resterait un look Apple, mais c'est très hypothétique.
Florian, on est où de cette histoire d'accessoires pour la maison? Les rumeurs l'évoquaient pendant un temps, pour une sortie en début d'année.
Oui.
C'est un espèce d'iPad du coup qui serait dédié à la domotique.
Oui, c'était la rumeur qui revient tout le temps. C'était en gros, Apple ferait une sorte d'écran connecté, comme en font déjà Amazon et Google depuis 150 ans. Mmh. Et il y aurait deux versions, une version assez simple et puis une version, une sorte de même un format carré. C'était marrant, c'était pas un format rectangulaire, mais plutôt un format carré. Mmh. Et une version un peu plus sophistiquée qui arriverait plus tard, avec un bras articulé qui permettrait à cet écran de bouger. Alors on pense immédiatement à la iMac G4, celui qui avait une base en forme de demi-sphère et puis un super bras et qui pouvait tourner tout seul. Pas tout seul, mais qu'on pouvait faire tourner facilement, il tournait tout seul dans la publicité. Donc un mélange, une sorte de home d'enceinte avec un écran dessus, donc c'est exactement ce que font Amazon et Google. Apparemment Apple voulait mettre un peu d'intelligence artificielle, puis évidemment Siri, mais comme ils sont en train de tout casser, forcément ça a l'air d'avoir repoussé un petit peu le produit, c'est du moins ce que laissent entendre les rumeurs. C'est juste un peu bizarre sur le... On peut comprendre qu'Apple ait envie de faire des choses dans la domotique parce que c'est un endroit où il y a des produits à mettre, il y a aucun problème, et puis ils ont des technologies dans tous les sens pour faire ça, pour les concentrer sur un seul produit. C'est juste que tel que les rumeurs le décrivent, il y a toujours des imprécisions, c'est jamais ça peut être bien plus sophistiqué, bien plus intéressant que ce qui est décrit, mais on a l'impression de voir un produit qui existe depuis 150 ans chez Amazon et Google. Donc on se dit, pourquoi pas, mais il n'y a pas ce côté ils ont pris quelque chose qui existe, ils l'ont transformé en quelque chose de très 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 différent, comme ils avaient fait avec l'iPhone. Il y avait aussi des histoires, des rumeurs comme quoi Apple s'intéresserait à la robotique. Amazon a montré il y a 3 ans un petit robot, il s'appelait Astro. Donc il faut imaginer une sorte de... il se déplace dans la maison comme se déplace un aspirateur connecté. Il a un écran qui lui sert de visage, et à l'arrière il avait même un petit réceptacle où on pouvait mettre deux canettes, des petites bouteilles de bière. Donc c'était Astro le robot d'Amazon, qui existe toujours chez Amazon, ça fait 3 ans qu'il est c'est pas vraiment une bêta, il est proposé sur leur site, mais sur invitation, c'est-à-dire qu'on postule et puis on peut être parmi les testeurs, mais ça fait 3 ans qu'il est là. Ils en ont fait une version pour l'entreprise qui servait un peu de robot patrouilleur de surveillance, parce qu'en fait ce robot, il y a les usages habituels de je vais faire de la visio avec quelqu'un. Alors il se balade à hauteur de vos pieds, donc c'est pas quelque chose de très pratique. Et on peut lui demander, on voyait dans la publicité une dame qui est dans son canapé, son mari a mis une bouteille de bière dans le robot et le robot lui apporte. C'est des usages, c'est rigolo, mais c'est rigolo 5 minutes. Il y avait un autre truc où il avait une sorte de caméra périscope, c'est-à-dire que dans la tête du robot, il y a un périscope qui sort, il y a une tige comme ça qui sort, et qui peut aller filmer des choses à hauteur d'homme. Par exemple, vous êtes à l'extérieur, vous avez une alerte de l'alarme, hop, le truc regarde un peu autour de lui, à hauteur d'homme, et puis vous voyez ce qui peut se passer. Donc, ça peut être là, c'est déjà un peu plus je dirais pas novateur, mais un peu plus original qu'un simple écran connecté tel que c'est décrit. Mais est-ce que c'est très utile? Ça fait quand même 3 ans qu'Amazon teste le truc. Ça a pas l'air d'être, ils ont pas l'air d'avoir trouvé la solution, l'idée géniale qui fait, on le lance et puis on verra ce que ça donne. Donc si c'est juste un écran connecté, ça sera toujours utile, mais il n'y aura pas de quoi fouetter un chat. C'est un peu encore recouvert de pas mal d'interrogations et de flou, cette histoire de nouveaux produits domotiques.
Google a récemment tenu sa grande conférence annuelle où elle n'a pas arrêté de parler d'IA. Pour Apple, c'est un peu plus délicat au vu du fiasco du nouveau Siri. Ils vont pas pouvoir en faire énormément à ce niveau-là. Christophe, ils ont quoi sous le pied côté IA ?
Eh bien, c'est pour cela qu'on regardera Keynote lundi avec beaucoup d'intérêt, parce que justement, c'est un peu le problème, on sait pas trop. Alors, comme tu dis, le nouveau Siri, on sait que... Tim Cook n'a pas voulu le dire, mais on a l'impression qu'ils ont décidé de redémarrer le projet. On ne sait pas ce qu'ils vont présenter, ce qu'ils vont pas présenter. Ils ont donné l'impression d'être à la fois assez humbles et assez sûrs d'eux. Donc voilà, est-ce qu'ils en parleront plus que ça? Je n'en ai aucune idée. Et puis même le planning, on a entendu beaucoup de choses. Il y en a qui disaient que c'était plutôt cette année, d'autres qui laissaient entendre que c'était plutôt l'année prochaine. À voir. Mais voilà, et il y a aussi, a priori, une volonté chez Apple de détacher un petit peu Siri d'Apple Intelligence. Pour revenir justement à Apple Intelligence, j'ai vraiment l'impression que cette année, on a vécu l'année zéro d'Apple Intelligence, parce que c'est quand même... Enfin, les fonctionnalités, elles sont malgré tout très très discrètes. Alors, il y a des choses qui marchent bien, d'autres moins bien. Enfin, j'en parlais notamment avec Stéphane l'autre jour. Moi, je trouve que les notifications importantes, ça marche pas mal. Alors, les résumés dans les notifications, bon, il y a des ratés. Voilà, maintenant, tu as aussi Apple Intelligence qui te spoil un peu tes mails et tes messages. Pourquoi pas, mais voilà, pour l'instant, c'est des petits ajouts, mais qui ne change pas la vie. Et puis le problème, c'est qu'il y a des choses, par exemple, pour tout ce qui est relatif au texte, enfin, personnellement, j'ai pris l'habitude d'utiliser d'autres outils que ceux d'Apple, et ça, je pense que c'est un problème, enfin, pour Apple de manière générale, parce que d'un côté, bah, tu as un outil comme Antidote, enfin, voilà, je parle vraiment de mon activité de rédacteur, qui permet un petit peu de retravailler tes phrases, et puis sinon, bah, tu as ta chat GPT qui fait des choses aussi, parfois, qui peuvent être très intéressantes, hein. J'avais des courriers à rédiger, enfin voilà, j'ai gagné un temps fou hier avec ça. Voilà, le gros chantier, ce qui paraît de toute façon hautement probable, hein, c'est que voilà, c'est de dire, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est voilà, c'est de dire, on a développé Apple Intelligence, maintenant vous, développeurs, voilà, on vous donne les outils pour l'utiliser et pour l'intégrer assez facilement dans vos applications, tout en garantissant certaines choses comme la vie privée, ce genre de choses. Mais comme le disait Florian tout à l'heure, encore faut-il que les performances offertes par les outils d'Apple se rapprochent en tout cas de ce que font de ce que font les autres. Et connaissant Apple, de toute façon, Apple a toujours tendance à montrer l'exemple, et je pense que on va moi, enfin ils vont faire, comment dire, une revue d'effectifs de leur application et dire, regardez, bah, dans Note, grâce à l'intelligence artificielle, on a ajouté telle fonctionnalité. Dans Rappel, il y a tellement de choses à faire avec l'intelligence artificielle. Et ben, maintenant, vous écrivez un rappel et ça met automatiquement le rappel dans le bon projet. Voilà, Safari, j'en parlais tout à l'heure. Il y a énormément de choses à faire. Mail, bah, Florian rêve d'un filtre anti-spam performant, je pense, qu'avec l'intelligence artificielle. Il y a des technologies qui sont très, très intéressantes qui existent. Donc pour moi, ça va vraiment être le grand axe, sachant que voilà, Apple joue quand même vraiment sur plusieurs tableaux. Elle doit, un, intéresser les développeurs, enfin, que pousser les développeurs à utiliser ces nouvelles technologies. Ça a toujours été le but de la WWDC. Deux, rassurer les utilisateurs qui regardent quand même Apple Intelligence d'un air un petit peu méfiant. Et trois, et c'est pas le plus important ou presque, mais il y a quand même les marchés financiers qui regardent la position d'Apple en matière d'intelligence artificielle de plus en plus avec circonspection. Et qui se disent, non mais alors, est-ce qu'Apple est vraiment en train de prendre ou pas le train de l'intelligence artificielle? Voilà, parce que les analystes pensaient que quand Apple a présenté Apple Intelligence, que d'ici 18 ou 24 mois, la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans les produits d'Apple serait un relais de croissance. Et voilà, si ça ne l'est pas d'ici 6 mois, 1 an, et ben voilà, Apple pourrait en tout cas en bourse connaître des moments un petit peu difficiles. Donc voilà, c'est un petit peu, il y a beaucoup d'enjeux autour de l'intelligence artificielle, ça c'est clair. Voilà, comme Florian l'a rappelé, Google s'est beaucoup moqué et c'est en train de devenir un petit peu, j'ai l'impression, une plaisanterie dans toute l'industrie. Et voilà, alors Apple a décidé enfin, donne vraiment l'impression de vouloir faire les choses différemment. On l'a vu avec plusieurs changements au niveau de l'équipe d'Apple, et aussi de ne pas être aussi dogmatique et de ne pas avoir peur d'utiliser les modèles de la concurrence pour mener ses projets à bien. Donc, bah, écoutez, on verra bien.
Ouais. Florian, t'en penses quoi? Tu penses qu'ils vont réussir à redorer leur blason côté IA? Parce que c'est vrai que ça a été compliqué là.
Bah, ce que Christophe disait, ils ont des équipes et effectivement, on a vu, on en discutait une autre fois où on disait quand il y a des problèmes au niveau des sociétés, quand il y a des choses qui fonctionnent pas, ça tient parfois à quelques individus qui sont au poste clé et qui orientent les choix de l'entreprise dans une direction ou une autre et qui arrivent à, donc parfois ils vont dans la mauvaise direction, mais ils arrivent à convaincre les gens au-dessus on y va, quoi, donner le feu vert. Et c'est un petit peu ce qui est apparu dans un article de The Information qui racontait un petit peu les coulisses. Et on voyait qu'il y avait un peu des équipes qui se battaient, autour du même sujet. Il y avait des équipes en charge de Siri et de l'IA qui étaient, certains n'étaient pas très convaincus par ces nouvelles formes d'intelligence artificielle, alors que c'est le domaine vers lequel elles auraient dû aller à fond. Et d'autres équipes, celles de Greg Federighi, qui ne chapeautaient pas ces développements, qui se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui se produisait, qui travaillaient un petit peu de leur côté, histoire de se dire, mais attendez, on va quand même creuser un peu le sujet, parce que le bureau d'à côté, ils n'ont pas l'air très convaincus, mais nous, il y a un truc qui nous intrigue. Et donc, il y avait beaucoup de choses qui tenaient un peu à des personnes. Donc, Apple a l'air d'avoir réorganisé un peu les choses. À l'extérieur, ils n'ont rien dit, il n'y a pas eu de lettres ouvertes, des choses comme ça s'est déjà produit par le passé. Mais il y a l'air d'y avoir eu une sorte de réorganisation. Donc, à partir du moment où il y a, déjà, la première chose, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Ensuite, il y a l'argent, Apple en a. Et puis, il y a le fait que c'est inévitable pour Apple d'aller là-bas, d'aller dans ce domaine. On sent bien que d'une manière ou d'une autre, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais Apple, un jour, aura ses propres modèles de langage au niveau, en tout cas, elle essaiera de les mettre au niveau de la concurrence, parce qu'elle a toujours fonctionné comme ça. Quand il y a un élément de ses systèmes qui devient absolument vital pour son développement, sa croissance et ses capacités de développement, eh ben elle dit, on le fait nous-mêmes. On l'a vu, on le voit constamment avec les processeurs, toutes sortes de processeurs dont elle s'occupe maintenant. L'abandon d'Intel, ça a été juste le dernier exemple en date. Donc, c'est évident qu'elle va consacrer des ressources pour accélérer et essayer de rattraper son retard. Et d'ici là, comme disait Christophe, il faut qu'elle soit assez pragmatique, qu'elle dise, en attendant qu'on sache faire les choses nous-mêmes aussi bien que les autres, on va travailler avec les autres. Et puis on va prendre OpenAI, on va prendre Google, on va prendre machin, on va prendre toute la trousse à outils qui existe, et puis on va essayer de mettre ça dans nos systèmes. Et puis un jour, on aura notre solution qui, on l'espère, sera devant les autres et les développeurs. Ce développeur, à choisir, je pense qu'ils préféraient travailler dans l'absolu avec les outils d'Apple parce que tout est intégré. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se disent, je veux intégrer un modèle dans mon application, j'ai Xcode qui me propose ça, tac, 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 et puis je prends la trousse à outils que j'ai à disposition. Je vais pas aller m'embêter à chercher un autre truc là-bas qui est payant, qui est ceci, qui est cela. Donc, pour les développeurs, ça peut être également tout bénef. Ce qui est compliqué pour Apple, c'est que là, donc ils ont été un peu pris de court, et surtout ils sont face à des sociétés qui ont des ressources énormes, ces startups croulent sous l'argent, et surtout sont devenues populaires en un temps record, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, d'OpenAI, mais les gamins de 12 ans les utilisent. Et ils les utilisent à travers des produits Apple, mais ils utilisent OpenAI, ChatGPT, en un temps record, sont arrivés au niveau d'adolescents qui les utilisent très, très facilement. Ouais. Et Apple, Apple n'y est pas là-dedans. Elle est uniquement à travers ses appareils. Et tout ce qu'elle propose jusqu'à présent, on parlait des outils de rédaction, tout ça, elle ne fait rien que les autres ne savent pas déjà faire. Alors c'est un peu plus facile parce que c'est déjà intégré dans les applications. Mais pour l'instant, pour résumer, Apple fait comme les autres, grâce aux autres, et elle fait peut-être même moins bien que les autres à bien des égards. Google se prive pas pour dire, tiens, avec Gemini, on peut faire ci, des fonctions dont Apple parfois un peu parlait, mais en les repoussant à plus tard. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu ils sont partis, voilà, ils sont plus sur la ligne de départ. La course est lancée, mais pour l'instant, ils suivent un petit peu les autres et ils se détachent pas du lot. Ouais. Ils suivent le mouvement et on imagine bien qu'en coulisses, ils essaient un peu de cravacher pour s'émanciper et gagner l'indépendance et dire nous on a notre solution maintenant, on fait nos trucs, et comme ils aiment bien faire généralement mieux que les autres, de dire on s'est émancipé, mais ce qu'on vous propose c'est mieux que machin. Mais là, ça va peut-être prendre du temps parce que ces sociétés, elles y vont à fond. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a une nouvelle version du modèle de machin, de machine, et que ça évolue à toute vitesse. Ouais.
On fait souvent des comparaisons avec d'autres épisodes de l'histoire d'Apple, par exemple, lorsqu'Apple avait complètement raté le virage de la musique numérique.
MP3, oui.
Voilà, mais la compétition n'a rien à voir. Enfin, Apple se battait à l'époque avec Creative, Arcos, des toutes petites boîtes. Tandis que là, enfin, tout le monde sait que c'est là où réside la croissance dans les années à venir. D'un côté, donc, tu as des sociétés comme Microsoft, Amazon, Meta, qui se mettent à fond dessus, et puis oui, voilà, t'as une société, enfin...
Et en plus, ouais. Apple peut même pas dire, pour rebondir sur le coup du MP3, il y avait par exemple la période de l'iPod, où quand ils ont fait leur premier iPod à mémoire flash, et même le premier iPod tout court avec le petit micro drive, je sais plus... où ils ont raflé tous les stocks qui existaient en disant, bah voilà, vous nous faites l'exclusivité, on vous les achète, et puis personne d'autre les a.
Là, ils ont pas fait dire, tout le contraire.
Voilà, ils peuvent pas dire à OpenAI. S'ils vont voir OpenAI ou Google, ils disent, alors ok, vous avez des trucs super, on les prend que pour nous. Les autres vont rigoler, on va dire, mais attendez, vous plaisantez. On peut... Donc ils peuvent même pas jouer sur ce côté-là de, on prend une exclusivité et on assèche les ressources pour les autres. C'est des boîtes qui refusent des clients, en fait. Et Apple est dans une belle position, ils ont de l'argent, hein. ils peuvent offrir une exposition à toutes ces technologies qui est énorme via le nombre d'iPhone, les Mac, etc. Mais ils ne sont pas complètement indispensables.
Puis c'est vrai que même sans parler d'IA, on les imagine tendus en ce moment, quand même un gros nombre de coups durs qui s'accumulent, Christophe.
Alors, je serais peut-être pas aussi pessimiste que toi. Ils sont clairement dans une période de transition qui n'est pas évidente, et c'est une période qui de toute façon n'est pas évidente pour tout le monde. On va utiliser le terme réglementaire entre ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, avec ce qui se passe en Europe, mais là dans tout ce qui touche à la régulation. Clairement la situation n'est pas facile pour Apple. Mais ceci dit, on est quand même pas très très loin a priori. Enfin, on a quand même l'impression qu'Apple veut lancer une grande offensive qui va commencer peut-être timidement à la rentrée avec l'iPhone Air. Mais voilà, on a l'impression qu'ils ont quand même de gros projets pour 2026. Et puis voilà, quoi qu'on en dise, voilà, chez Apple, quand l'iPhone va, tout va. Et je pense que cet iPhone, quand même, à écran pliable, ça peut lancer quand même une nouvelle dynamique. Alors, ils ont du retard. Il y a quand même beaucoup de produits dont on a l'impression qu'ils sont dans les tuyaux qui pourraient arriver d'ici, on va dire, 12-24 mois. Alors, la seule réserve que j'aurais par rapport à ça, c'est peut-être de se lancer sur trop de choses à la fois. Mais voilà, je suis curieux de voir ces WDC. Je pense que Apple a encore une période un petit peu délicate. Mais voilà, je pense qu'Apple, de toute façon, l'année prochaine, c'est une année extrêmement importante pour Apple. On parle, enfin, c'est quand même les 50 ans de la boîte. L'iPhone va sur ses 20 ans. Enfin, ça sera juste après. Donc voilà, c'est évident qu'ils préparent les choses en grand et qu'ils peuvent pas se planter.
Et pour une toute petite chose dont on n'a pas parlé, mais c'était l'alliance entre guillemets entre Sam Altman et Johnny Ive, où là on va voir ce que va donner cette union de compétences et d'argent et de quel produit va sortir de ça, et est-ce que une fois qu'ils auront lancé ce mystérieux produit, est-ce qu'on va se dire ah mince, tiens, c'est un truc qu'Apple aurait pu faire, qui a une logique et qui est bien pensée, qui est bien fichue. Il y a quand même Johnny Ive derrière, voilà, qui apporte un peu tout son crédit à la chose. Et de se dire, est-ce qu'on va se dire, ah tiens, ouais, c'est vrai qu'Apple, là, ils sont passés encore à côté d'autres choses. Et ça va pas. On sent que Johnny Ive veut faire un produit qui soit. Qui permettent de se détacher un peu de l'iPhone, pas de le remplacer, parce que ça prendra, si ça arrive, ça prendra encore de nombreuses années. Mais on sent qu'il a envie de faire un produit qui permette un petit peu de ne plus sortir constamment de manière compulsive son téléphone pour la moindre chose. Pour peu que ça marche, est-ce que c'est quelque chose, on se dit, tiens, c'est dommage qu'Apple n'ait pas pensé à ça, parce que c'est assez malin et c'est bien pensé.
Et dans un tel cas, le bilan de Tim Cook serait quand même attaqué, je pense. Enfin, voilà, ça serait...
Oui, mais à la limite, on ne peut pas forcément lui reprocher de... Parce qu'il y avait un peu le discours de... Bah, il n'aurait pas dû laisser partir Johnny Ive. Mais en même temps, le bonhomme était dans la boîte depuis avant l'arrivée de... le retour de Steve Jobs. Donc, moi, je peux tout à fait comprendre qu'au bout d'un moment, il se soit dit ouais, okay, je peux faire des trucs super chez Apple, j'ai une certaine liberté, devait avoir un salaire très copieux, mais tu peux arriver au bout d'un cycle et te dire bah, j'ai envie d'être mon propre patron et de faire vraiment ce dont j'ai envie. Donc là, il a fait des fringues, il a fait un truc pour le
Prince Charles. Il a pas fait grand-chose après, quoi. Enfin, il a fait un nez de clown, deux vestes, et voilà, quoi.
Ouais, mais ça a l'air de faire tourner la boîte.
Ouais, c'est ça qui m'étonne un peu.
Après, il y a peut-être d'autres choses dont on n'a pas forcément parlé, parce que c'est bon, généralement, ses clients le disaient quand il y avait Johnny Ive derrière, Mais je peux comprendre le côté, et même si Tim Cook lui avait dit bah, « je te augmente ton salaire de 50% » et au bout d'un moment, t'arrives au bout d'un cycle, quoi.
Non, mais tu as totalement raison, mais que Johnny Ive parte, pourquoi pas, et ce que tu dis est totalement compréhensible et logique, mais le souci, c'est qu'il est parti avec la moitié ou les deux tiers du département design.
Qui n'étaient pas tous non plus des monsieur ou des dames de 20 ans, donc aussi il y avait pas mal, même logique, il y a peut-être un peu, voilà, on a fait un peu le tour, et puis, mais effectivement, oui, il a rajeuni certainement le studio design d'Apple avec tous ces débauchages.
Mais et si puis, Johnny Ive sort, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, un iPhone killer product, il y aura un côté but contre son camp, quoi.
Oui, ouais. Oui, mais effectivement, il aurait pu aller vendre son idée auprès d'Apple en disant, voilà, j'ai ça en tête, qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, c'était revenir un peu au bercail, quelque part. Bon, les dîners après, il y a aussi... c'est toujours des dynamiques entre individus qu'on ne connaît pas forcément, et puis il a peut-être bien cliqué avec Sam Altman, et ça a bien fonctionné, s'est dit, tiens, ça me rappelle quelque chose, quelqu'un.
Qui portait des lunettes, c'est ça, et quel... Il est plus noir aussi, enfin... Ouais.
Eh bien, merci à vous deux pour ce point sur la prochaine WWDC. On rappelle que la grande conférence d'inauguration aura lieu le 9 juin à 19h. On manquera pas de couvrir ça en direct sur lekeynote.fr et décortiquer les nouveautés dans les jours et les semaines qui viennent. Christophe, merci d'être venu, à bientôt.
Mais de rien, à bientôt.
Florian, à la prochaine.
Oui, à bientôt.
Et nous, on se dit à très vite pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.